Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir noté ce nouveau numéro de votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, premier numéro de l'année 2021. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et je voudrais vous livrer cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, citation que je trouve de circonstance pour bien commencer une année nouvelle. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Wagon Livre sur votre radio locale jusqu'à midi. Nous marquons, si vous le voulez bien, un premier intermède musical. Juste vous annoncer le sommaire de notre émission. Nous aurons l'opportunité de réentendre des extraits d'émissions qui vous ont été proposés l'année dernière. Vous réentendrez notamment Jacqueline Kellen pour Le Jardin des Vertus qui a obtenu l'an dernier le prix de la liberté intérieure. Vous réentendrez Betty Yorillo, psychologue clinicienne et thérapeute de couple, pour son premier roman qui parle de l'échangisme. Premier roman intitulé « Sous les mains de Shiva », disponible aux éditions Librinova. Et enfin, nous reviendrons sur le vin, l'histoire du vin et l'œnotourisme avec André Derrieux qui signe aux éditions Ellipse 50 jours pour comprendre autrement le vin. Et je rappelle au passage qu'André Derrieux a fait paraître courant novembre dernier un autre essai, toujours aux éditions Ellipse, intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin, 12 mois avec Bacchus ». C'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Première pause musicale, on se retrouve dans une poignée de minutes.
À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence, à nous pas la mode, à nous dans le décor, à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps, à nous dans l'univers, à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie, à nous dans l'écriture et à nous sans les mots, à nous dans les ratures et dans nos sacs à dos, qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière, à nous dans le métro, qui cherchons la lumière, à nous qui poursuivons des perdants magnifiques, à nous dans l'illusion d'un chemin prophétique, à nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou, on peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir, à nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir, à nous les trop polis qui n'en pensons pas moins, qui tendons l'autre joue mais qui serrons les poings, à nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique, à nous dans les chansons d'il y a 40 ans, mais à nous qui guettons devant, 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 à nous dans les bobines, dans le grain maladroit, dans les cartes postales et dans les feux de joie, à nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin, À nous qui sommes là, qui tombons comme chacun, dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis, quand on pourra se dire tout et son contraire, sans que ça doive passer par une carte mère, quand on ne pourra plus savoir qui va où, savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette, à nous sans lingots, à nous sans paillettes, à nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs, qui ne maquillons pas nos nuits de déboire, qui ne trinquons pas sur les places branchées, qui fond dans le vent, notre fragilité. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière, à vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous ouvrons ce numéro de Wagon Livre avec un extrait d'un entretien diffusé l'an dernier sur Radion, bien évidemment, à bord de Wagon Livre. Vous allez réentendre Jacqueline Kellen, agrégée de lettres classiques, ancienne productrice d'émissions à France Culture, qui a signé plus de 70 livres à ce jour. Et l'an dernier, elle avait fait paraître aux éditions Salvator Le Jardin des Vertus, qui a obtenu le prix de la Liberté Intérieure 2020. Les quatre vertus, ce sont les quatre vertus léguées par la philosophie grecque, puis reprises par le catholicisme qui les a nommées vertus cardinales. Les quatre vertus sont les suivantes: la force, la prudence, la tempérance et la justice. Jacqueline Kellen revient d'ailleurs dans l'extrait que vous allez entendre sur la notion de prudence et notamment sur le discernement. Il s'agit d'un entretien enregistré à Vézelay le 11 août 2020 et diffusé le 12 septembre sur l'antenne de Radion. Tout de suite, Jacqueline Kellen concernant le discernement.
Très important, le discernement, qui veut dire aussi juger, jauger, apprécier, faire le tri. C'est le sens du tamis. Hein. Le bon grain est l'ivraie, il y a la paille et le grain. Enfin, il faut distinguer les choses et la distinction n'est pas un rejet. Ça aussi, c'est important parce que de nos jours, on veut toujours, on est très consensuel et on veut que tout aille avec tout, tout s'assente. Non, la distinction fait que vous êtes vous et je suis moi. Et ça, c'est magnifique, justement. On peut parler parce que nous sommes à la fois certainement proches par la grande sympathie, mais nous sommes différents. Et ça, justement, ça permet le vrai dialogue. Hein. Et la distinction, le discernement, ça veut dire, ça s'acquiert. Je pense que c'est peut-être un don plus ou moins, mais ça s'acquiert. C'est-à-dire refuser, c'est faire preuve de courage aussi. Faire preuve de courage. Parce que, prenons un exemple par rapport à des personnes, une personne qu'on peut estimer une amie, et puis, ou un ami, et puis qui vous trahit, vous aussi vous pouvez trahir, mais qui vous fait un sale coup, qui vous trahit, etc. Et à ce moment-là, le côté gentil, bienveillant, faussement gentil, etc., vous dit, ah ben non, vous trouvez des excuses, ou etc. Alors que le discernement, c'est, je me suis trompée, non ? Il ou elle n'était pas telle et telle qualité que je lui ai par... en rêvant, en voulant très fort, j'ai voulu lui attribuer, par exemple. Donc ça, c'est le discernement. Ou par exemple, le discernement, c'est aussi passer son temps à essayer d'instruire quelqu'un qui n'en a rien à faire ou de lui parler de quelque chose dont il n'a rien à faire. Bon, vous perdez votre temps, votre jeunesse, votre énergie. Bon, c'est des exemples extrêmement simples et vraiment de vie quotidienne, mais le discernement, ça demande aussi du temps, c'est-à-dire ce qu'on ne s'accorde pas de nos jours, à savoir, c'est pas tout de suite, immédiatement, aller... Non, il faut délibérer, il faut réfléchir. La prudence, c'est pas tout de suite, c'est l'immédiateté. Là, attendez, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que j'ai tous les moyens extérieurs et intérieurs de prendre? Et ça, c'est surtout sur le plan de la cité, hein, de ce qu'on appelle le politique. Non seulement gouverner ma vie, mais gouverner le monde, enfin le monde ou son pays. Et à ce moment, on peut prendre le conseil des sages. Hein, le discernement, c'est aussi dire, moi seul, je peux bien sûr me tromper ou me laisser prendre par mes désillusions ou des envies d'idées joyeuses. Et à ce moment-là, je peux demander à un ami véritable ou une amie de m'aider, de me conseiller.
Donc, sagesse, la prudence, c'est le contraire de la folie. Vous le dites d'ailleurs, Jacqueline, hein, sur les bas-reliefs médiévaux, au porche des cathédrales. La prudence est le contraire de folie qui sont représentées par des femmes dans des attitudes différentes.
Tout à fait.
Finalement,
à fait.
Celle qui est sur la couverture de votre essai, c'est une attitude réflexive, de sérénité, d'ataraxie, de sagesse.
Oui. Alors, pour moi aussi, enfin, je l'ai choisie parce que bon, elle est très belle cette dame. Et puis surtout, alors, puisque moi j'aime tellement l'époque médiévale, même là, si c'est une, il est peu connu. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas ce peintre italien, 19e.
Charles-Édouard Perugini.
Voilà. Les vertus dans toutes les bas-reliefs, dans les bas-reliefs des cathédrales ou dans les vitraux, les vertus sont toujours représentées par des femmes, des dames, des nobles dames. Voilà. Parfois un guerrier, mais la plupart du temps de nobles dames. Alors cette couverture, oui, sans nul doute, elle est réfléchie. J'y voyais aussi le thème de la tempérance. La tempérance, la modération, elle est dans un jardin avec une pomme d'or, une orange. Et c'est aussi arriver à modérer en soi, tout ce qui peut être excessif dans le bon ou dans le mauvais côté.
Alors justement, vous avez prononcé le nom de la troisième vertu, c'est la tempérance. Et je voudrais lire, de fait, la vertu de tempérance s'attaque au bastion du moi arrogant, tout puissant. Elle exige que l'on fasse taire son ego, ses prétentions et ses revendications, que l'on contrôle ses impulsions, colère, violence, que l'on jugule l'avidité inhérente au moi primaire grossier. Et là, je poursuis. On constate que cette vertu n'est guère pratiquée de nos jours où tout citoyen est encouragé à consommer, faire du bruit, à profiter et se faire plaisir. Ce qu'on appelle maintenant addiction et non plus intempérance se répand. Addiction au jeu, à l'alcool et à la drogue, au sexe et à la pornographie, à Internet, au téléphone et aux écrans. On remarquera en passant que c'est toujours l'individu qui crée ses propres chaînes et alimente ce qui va le perdre.
Oui, je ne me souvenais plus que j'avais écrit tout cela, mais... De fait, je pense que s'il y a une vertu, la vertu la moins pratiquée à notre époque, et pas simplement pour des raisons sur le plan individuel, c'est que toute notre société, quand on dit « je vais dévorer le monde », et on détruit la planète, même s'il y a maintenant les cris d'alarme, mais sans doute trop tard, en effet, l'homme s'aperçoit, l'être humain s'aperçoit qu'il a tout saccagé autour de lui. Ce qui était un jardin possible, eh bien, devient son propre enfer. Hein, quand on dit, on continue les métaphores végétales, puisqu'on est sous de très beaux marronniers ici à Vézelay et qu'il y a un peu d'air frais qui passe, et bien en effet c'est l'homme lui-même. Alors au lieu de dire c'est Dieu qui, pourquoi le mal alors qu'il y a un Dieu qui a, etc. Non, c'est l'homme lui-même qui scie consciemment ou inconsciemment la branche sur laquelle, etc. il est assis, où il pouvait lui aussi faire croître ses vertus. L'intempérance, c'est l'avidité. L'intempérance. Intempérance, c'est je me laisse aller à mes pulsions premières.
C'est un peu jouir sans entrave, ce que mai 68 a complètement mis en avant.
Exactement. Donc là, c'est encore autre chose. Mai 68, mon Dieu, ça fait déjà plus de 40 ans.
Et 50. On en paye les conséquences.
Oui. Parce que alors c'était certainement un mouvement, j'allais dire, dans le bon sens, juvénile, de rébellion, etc. Mais ça crée, en effet, voulant faire sauter les barrières, en effet, il y a eu le grand terrain vague en friche, et puis en plus, du passé faisons table rase, etc. Alors que si on nous coupe, continuons la métaphore, si on coupe les racines d'un arbre, ça m'étonne qu'il dure très longtemps. Bon. Donc l'intempérance, en effet, c'est céder à ses pulsions. Puis il y a la notion d'immédiateté. Je me souviens souviens d'une. C'était. Est-ce que ça existe encore dans le métro à Paris? Il y avait les. Si ça doit exister, les machines, vous savez, où il y avait des friandises, etc. Où on mettait une pièce, où on met peut-être encore une pièce, et puis on prend la barre chocolatée ou je ne sais quoi.
Ben maintenant, il y a même des distributeurs de pizza, Jacqueline.
Ah bon, alors, bon, alors je ne
sais pas. Avec la carte bancaire. On ne met même plus des pièces, Jacqueline. On paye en carte bancaire maintenant.
Voilà. Mais là, je me souviens de ça, ça remonte à quelques années, et c'était surtout le slogan ou l'accroche sur la machine, c'était marqué « Vous avez faim, n'attendez pas !» Et je me dis « Tout est là, tout est là, c'est immédiat !» Non, parce que non seulement il peut y avoir une attente, et surtout sur le plan d'une attente, d'une belle chose, qui est douce, délicieuse, etc. Hein, ce n'est pas le résultat, la satisfaction qui compte, mais c'est justement tout le chemin pour approfondir ou aiguiser ou affiner le désir.
Le manque crée le désir, c'est aussi valable finalement dans l'affection, dans la relation amoureuse.
Et ça, on ne sait plus. Hein, avec l'histoire aussi des SMS, tout de suite, autant c'est pratique, un texto, etc. Autant, on se dit, du temps où, et ce n'est pas une rêverie sur le bon vieux temps, c'est pas ça, mais se dire attendre une lettre, par exemple, c'est autre chose que je peux joindre l'autre à l'autre bout du monde et je peux être joint ou jointe à tout moment. C'est épouvantable, ça. L'intempérance, c'est en effet, je ne mets pas, je veux tout de suite être satisfait. Notre époque n'est pas du tout une époque de désir, c'est une époque de convoitise. Le terme est toujours mal compris. Le désir, il n'y en a pas 50. Il y en a un seul. Moi, je ne dis pas lequel. Chacun devrait creuser quel est son seul désir, son désir essentiel. Voilà. Ça, c'est vraiment, personne ne peut vous le dire. Quel est ce vers quoi converge absolument toute votre vie. Ça, c'est important. Les désirs, c'est comme les valeurs, c'est vague. Et les désirs, à notre époque, les désirs, ça veut dire la convoitise et on crée des faux désirs. Là aussi, je rappelle des évidences. Et notre époque est sous le signe de la répression de la satisfaction, d'où la boulimie et les personnes de plus en plus obèses. Et là, ce n'est pas une critique par rapport aux personnes obèses, mais toute la société fait que il faut manger, avaler, dévorer, se faire plaisir. Jamais les termes abominables qui sont sentis abominables comme pour la plupart des contemporains, c'est l'austérité, frugalité, renoncement, comme si c'était horrible. Alors que c'est justement, moi je trouve la question, et ça, c'est pas d'être un ascète et d'un ermite au fond d'une grotte, mais de dire, au lieu qu'est-ce qui manque encore, qu'est-ce qui manque encore, vous devenez bien sûr prisonnier de vos possessions, c'est de dire de quoi je puis me passer. Et là, vous arrivez à ce dont vous ne pouvez pas vous passer essentiellement. Je pense qu'on ne peut pas se passer, en effet, d'amour, d'amitié, etc. Mais je peux me passer de la plupart des choses qui m'encombrent et qui encombrent ma vie.
À l'instant, c'était Jacqueline Kellen dans un numéro de Wagon Livre qui vous a été proposé courant septembre 2020 pour son essai intitulé « Le jardin des vertus » paru aux éditions Salvatore courant 2019 et qui, l'an dernier, a obtenu le prix de la liberté intérieure. Jacqueline Kellen a d'ailleurs fait paraître, courant octobre dernier, un autre essai. Cette fois-ci, c'est aux éditions du Cerf, un essai intitulé « Les compagnons de sainteté », dans lequel elle analyse les liens entre, et les histoires, les belles et édifiantes histoires entre l'homme et l'animal, qu'elle est allée rechercher dans différentes religions, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Et elle propose ainsi une véritable réflexion sur le lien mystérieux, profondément spirituel, qui unit les êtres humains et leurs frères animaux. C'est le dernier essai de Jacqueline Kellen, intitulé donc « Les compagnons de sainteté » aux éditions du Cerf. Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale. Nous aurons ensuite le plaisir de réentendre et de redécouvrir quelques-uns des thèmes qui sont développés dans le premier roman de Betty Yorillo, Sous les mains de Shiva, une émission qui vous a été proposée le 26 septembre dernier. Nous reviendrons sur des thèmes absolument passionnants comme le désir, l'absence, la chair, l'échangisme et le couple. C'est au programme de l'extrait de l'entretien que nous vous proposerons après la pause musicale que nous allons vous offrir.
J'ai lâché le temps. ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait, que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone. Avoir entendu le glas, j'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois, puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en cette fin de matinée d'être avec nous pour ce premier numéro de l'année 2021. Wagon Livre, plus de 10 ans d'existence sur l'antenne de votre radio locale, sur l'antenne de Radion. Aujourd'hui, nous vous proposons en nouvelle diffusion des extraits d'entretiens déjà diffusé courant 2020. Et cette fois-ci, je vous propose d'entendre Betty Yurilo, psychologue clinicienne et thérapeute de couple exerçant en Côte d'Or, à Saulieu. Elle était venue courant septembre de l'an dernier nous présenter son premier roman, Sous les mains de Shiva, disponible en librairie aux éditions Librinova ou sur tous les sites de commande en ligne. Un roman qui évoque les joies et les difficultés de deux couples que l'amour embrase, des couples qui vont finalement mettre à l'épreuve leur désir et leur fidélité en s'engageant notamment sur la voie du libertinage. Un des personnages d'ailleurs absolument remarquable, qui se prénomme Sam, est un gourmand de chair et de sexe. Il est parfois même par certains aspects proches de la folie. Et j'avais d'ailleurs interpellé Betty Yurilo sur le caractère démesuré de ce personnage, Betty Yurilo, dans un extrait d'un wagon livre diffusé le 26 septembre 2020.
Vous savez, moi, la folie, justement, hein, je ne sais pas ce que c'est la folie. Enfin, voilà, la folie, là aussi, hein, quand je parlais d'étiquette tout à l'heure, enfin, qu'est-ce qu'être fou, qu'est-ce qu'être taré. Moi, je pense qu'au contraire, Sam, en fait, même si de l'extérieur, hein, on peut considérer, bien évidemment, et à juste titre, ses tendances, ses penchants, ses goûts comme étant pour le moins particuliers, Sam est un être qui est en quête. Et j'aurais même l'audace de dire, mais la sincérité de dire qu'il est en quête de Dieu. Il est en quête d'un Dieu intérieur, en tout cas.
D'ailleurs, voilà. Parlant des femmes, Sam dit « Je les voulais toutes, je voulais être Dieu ».
Oui, voilà.
Mais c'est prendre un risque que Don Juan a pris, et ça se termine mal, d'ailleurs, dans la tragicomédie de Molière.
Certes, certes.
Alors, le désir, c'est une question sous-jacente, elle est en filigrane tout au long du roman, et nous sommes tous des êtres de désir. Oui. C'est la raison pour laquelle parfois nous éprouvons le manque, mais Lacan disait que tant qu'il y a du manque, c'est que tout va bien.
Certes, certes. Oui, oui, et c'est cette articulation fondamentale, hein, un lien extrêmement étroit entre la notion de manque, d'absence, et de désir, parce que je pense que c'est aussi dans alors là non plus j'en fais pas l'apologie, mais je pense que c'est dans le manque, dans l'absence, dans toutes ces frustrations, voire ces souffrances, hein, que le manque et l'absence peuvent susciter, qu'émerge en fait justement, hein, quelque chose de l'ordre vraiment de la pulsion de vie, du désir, de l'énergie, de l'être, et peut-être aussi de ce qui va l'amener à trouver son identité, à éprouver véritablement qui il est et la manière dont il a besoin, dont il a envie de se relier à l'autre, se relier au monde.
Il y a, dans votre roman, Betty Yorillo, Sous les mains de Shiva, un aspect extrêmement intéressant, me semble-t-il, c'est la dimension de la catégorie sociale à laquelle appartiennent vos deux couples. Parce que ce sont des individus cultivés qui ont fait des études, qui ont accès à l'art, qui ont une sensibilité, ce qui n'est pas le cas de chacune et chacun. Et finalement, on a l'impression que cette frénésie sexuelle et ce désir de libertinage, on va en parler, du libertinage, touche plus des catégories intellectuellement élevées plutôt que des gens modestes. Est-ce que, d'ailleurs, à un moment, me semble-t-il, donc une de vos héroïnes demande à Sam de la conduire dans un club hard, hein, où il va y avoir une véritable orgie sadienne, où elle va être violée, mais dans un cadre, petite précaution de la romancière, dans un cadre bien défini, avec des gens qui sont consentants et qui acceptent de faire cela.
Oui, et puis pas seulement une précaution, là pour le coup, cette scène-là, effectivement, elle est fondamentalement, hein, même si ça peut paraître un peu difficile à envisager, mais il faut lire mon livre, elle est fondamentalement résiliente, cette scène, elle est essentielle. Hein, pour justement, quand je vous parlais un peu du symbole du phénix tout à l'heure, c'est ce qui va permettre à Anna d'exorciser en fait fondamentalement tous ces démons, hein, toutes les scories de son histoire, et qui va l'amener à être fondamentalement presque purifiée, j'ai envie de dire, oui, purifiée. Alors du coup, j'ai oublié ce que... Oui, par rapport à la dimension sociale. Écoutez, ce que j'ai pu observer maintenant, voilà, hein, pour moi il n'y a pas de point final, ni de, j'aurais pas la prétention, voilà, de donner des statistiques, mais ce que j'ai pu observer notamment déjà lors de mes travaux de recherche, c'est qu'effectivement ce questionnement sur la sexualité, cette démarche vont être plus accessibles, en tout cas peut-être il va y avoir davantage de enfin, les personnes peut-être qui appartiennent à une catégorie sociale un petit peu plus élevée vont y être davantage sensibles, vont être davantage attirées par cette dimension. Comment l'expliquer? Vous savez, moi, ce qui me vient un petit peu à l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez un peu la pyramide de Maslow. Voilà, donc je ne vais pas vous entrer dans les détails, mais je pense que il faut avoir pu combler des besoins vitaux en amont, hein, c'est-à-dire bah, les besoins de se nourrir, d'avoir un toit. Ça, c'est, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même encore plus important qu'autrefois, pour peut-être après penser, envisager, avoir de l'énergie et du temps à consacrer à son évolution personnelle et à toutes les expériences qu'on va avoir envie de mener pour nourrir cette évolution. Voilà peut-être pourquoi aussi le libertinage ou cette démarche-là va davantage concerner, et encore, ça reste à prouver, une certaine catégorie sociale. Voilà.
Alors, à un moment, Sam, de manière très brutale, pose la question, avez-vous déjà baisé en groupe ? Alors, l'échangisme, Betty Yorillo, dans votre roman, j'ai noté cette phrase passionnante et qui demande quelques éclaircissements. C'est souvent l'homme qui propose à la femme de se soumettre à l'expérience libertine.
Oui, mais ça aurait été bien peut-être aussi d'envisager ce qu'il y a après. Mais oui, c'est au départ, fondamentalement. Oui.
Alors, parce qu'à un moment, vous écrivez justement, l'homme donne sa femme à un autre homme et vous écrivez... On s'intéresse au couple, enfin c'est Marco. Oui. Plus Marco donnait Lola, plus il avait le sentiment qu'elle lui appartenait. Il faut partager ça ou son partenaire pour avoir encore plus conscience qu'on a le bonheur de partager sa vie avec.
Eh bien, il peut y avoir effectivement cette dimension-là. Et c'est extrêmement agissant. Au cœur de la relation qui existe entre Marco et Lola. Et effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est prendre... Je pense que dans le libertinage, dans l'échangisme, en fait, c'est une mise en scène, là, pour le coup, très clairement, hein, donc incarnée dans le réel, une mise en scène, voilà, même pas de l'infidélité, c'est de voir son partenaire avoir des relations sexuelles avec... une autre personne. Donc ça fait effraction, vous imaginez, ça peut faire éclater énormément de choses. Et je crois que en parallèle, ça peut amener d'une part chacun à prendre conscience que la sexualité de l'autre, en fait, lui appartient en propre, et qu'il y a une part fondamentalement qui lui échappera et qui lui échappera toujours. Ce qui peut être aussi, je pense, presque une leçon entre guillemets d'humilité, voyez. Et je pense que pouvoir traverser ça, aller au-delà de ça, et encore une fois, je n'en fais pas l'apologie, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, qu'il faut le faire ou pas le faire, mais pouvoir traverser ça, je pense que c'est peut-être franchir une étape encore supplémentaire, et peut-être même une grotte supplémentaire dans l'amour de l'autre.
Ce qui est surprenant, c'est que les baisers, il n'y a pas d'échange de baisers. C'est une pratique qui est interdite. On peut sexuellement faire ce que l'on veut, mais on ne s'embrasse pas lors de séances d'échangisme. Enfin,
en tout cas, c'est ce qu'ont décidé le code, hein, qu'ont établi en fait Marco et Lola. Ben, ils sont une forme de garde-fou. Alors ça peut sembler effectivement un peu questionnant, mais... comme si, effectivement, pour eux, hein, et je crois que c'est très clairement exprimé à un moment donné, comme si pour eux, voilà, le baiser était vraiment de l'ordre de leur véritable intimité, de ce qui leur appartient à eux et de leur amour. Ce qui ne veut pas dire qu'ils clivent le sexe et l'amour, mais qu'ils définissent, parce que c'est fondamental pour la survie peut-être de leur relation, une frontière entre les deux.
Alors, une réflexion suggérée par la lecture de votre roman, Betty Yorillo, est-ce que l'échangisme est pratiqué par des couples en détresse ?
Ah mais oui, vous voyez, dans mon roman, j'ai pris le parti effectivement de créer, de définir des personnages, voilà, qui sont épris, qui ont des grandes qualités, mais qui ont aussi tout un passé extrêmement douloureux. Mais en aucun cas ce n'est une photographie de la population, hein, échangiste, ni de ce qui se passe globalement dans ce milieu. Et il peut y avoir, évidemment, bien sûr, mais comme je dirais, dans toute autre pratique, qu'elle soit d'ailleurs sexuelle ou pas, évidemment, des personnes qui sont déviantes, des personnes qui ne vont pas bien du tout, et du coup des personnes qui vont le pratiquer pour des raisons finalement complètement différentes. Éloignées, je pense, de la quête qui anime mes personnages.
à l'instant Betty Iorillo pour son premier roman paru courant 2020, premier roman disponible sur tous les sites en ligne et sur le site bien sûr de son éditeur Librinova, roman intitulé « Sous les mains de Shiva ». Je rappelle que Betty Iorillo est psychologue clinicienne et thérapeute de couple et qu'elle exerce en Côte d'Or à Saulieu. Merci d'être avec nous, Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Juste après, nous rentrerons dans l'histoire et la culture du vin avec André Derieux. Je vous propose tout de suite une nouvelle petite pause musicale.
Qui pourrait dire non? Dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? On se prend la main. Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose cette fois-ci dans votre émission littéraire de réentendre André Derieux pour un essai paru aux éditions Ellipse et intitulé « 50 jours pour comprendre autrement le vin ». Qui est André Derieux? Il est pionnier de l'œnotourisme en France, créateur en 2006 du site Wine Tourism in France, consultant expert en valorisation des patrimoines œnoculturels et des vignobles. Et la séquence que vous allez entendre a été enregistré au château du Clos de Vougeot fin septembre de l'année dernière à l'occasion de la 13e édition de Livres en Vigne. André Derieux venait y présenter donc 50 jours pour comprendre autrement le vin. L'occasion avec lui de revenir sur différents aspects du vin, le mariage de l'aliment et du vin, le thème bien évidemment incontournable de la religion catholique qui a utilisé le vin et qui a énormément contribué à la prospérité du vignoble dans notre beau et grand pays. L'importance et le rôle des monastères, qui est un phénomène européen d'ailleurs, sont absolument incontestables. Et puis André Derieux reviendra sur certains aspects qu'il évoque dans son essai, à savoir le prix de prestigieuses bouteilles de vin. Sans tarder, André Derieux enregistré lors de la 13e édition de Livres en Vigne fin septembre 2020.
En fait, pour vraiment synthétiser au maximum, on peut dire que la vigne était partout jusqu'à très récemment. Jusqu'à l'époque du phylloxéra, jusque dans les années 50, on pourrait dire, la vigne était à l'école, le vin était à l'école, le vin était servi à l'école jusque dans ces années-là. Donc la vigne était partout et le vin était partout. Le vin, c'était une panacée, on en a parlé. Le vin, c'était un aliment. Le vin, c'était un aliment comme les autres. Alors aujourd'hui, on s'étonne, on dit oh, faire chabreau. Vous savez, faire chabreau, c'est pour finir sa soupe, on versait un petit verre de vin dedans. C'était simplement l'alliance de l'aliment, la soupe, et de la boisson, le vin. Il y avait la trempée aussi. On avait des tranches de pain, on les trempait dans le vin. Ça pouvait être sucré, ça pouvait être salé, etc. C'était le mariage de l'aliment et du vin. Et le vin servait à tout. Alors il y a effectivement une longue antériorité pour ce qui est de la religion, hein, notamment de la religion catholique ou la religion protestante. Il y a effectivement une grande utilisation du vin. Mais ça, c'est effectivement, comme vous disiez, passé par les monastères. Et ce qui est intéressant dans les monastères, ça fait partie d'un des petits déclics de compréhension qu'il est important d'avoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de monastère, on voit une communauté de moines ou de moniales relativement réduite, un petit peu fermée sur elle-même, consacrée à des travaux de prière ou d'études, à part quelques monastères qui font du fromage ou qui font de la chartreuse ou des choses comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque dont on veut parler, au Moyen-Âge, enfin dès le 6e siècle, sur une grande partie du Moyen-Âge, les monastères, c'était les multinationales de l'époque. C'est-à-dire qu'ils s'installaient quelque part, ils défrichaient, ils plantaient, ils cultivaient. Il fallait qu'ils boivent, hein, c'était même indiqué dans les règles des monastères. Il fallait qu'ils boivent telle ou telle quantité de vin.
Et accueillir, le partager aussi avec les pèlerins.
Voilà, il fallait accueillir les pèlerins, il fallait accueillir des blessés, des malades. Et comme on l'a dit, on soignait avec du vin, donc il fallait là aussi pas mal de vin. Il fallait accueillir des nobles, parce que qui voyageaient et qui s'arrêtaient dans les monastères. Donc il fallait servir des vins de bonne qualité, de haute qualité. Donc il y avait vraiment un besoin très très important de vin. Donc oui, ils ont contribué dans leur rôle économique et dans leur rôle social, ils ont contribué au développement de la vigne de manière très très importante. Et là, c'est un phénomène, effectivement, je parle principalement de la France, mais c'est un phénomène européen, c'est-à-dire mondial à l'époque, hein, le monde occidental.
Et puis ce qui est passionnant aussi, c'est d'apprendre qu'un tonneau de vin pouvait être aussi une monnaie d'échange.
Absolument.
On troquait un tonneau de vin contre, je ne sais pas moi, du textile.
Absolument,
passionnant. Quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que le rôle des monastères qui était de produire du vin, à un moment, ça a été d'exploiter des vignobles. Et le vin devenait purement et simplement une source de revenus très importante. Et qui a permis aux monastères de jouer un rôle dans certaines régions, y compris la Bourgogne, la Franche-Comté, de jouer un rôle de financier important.
Le vin animait vraiment les vies économiques et religieuses de la France jusqu'à une certaine époque. Quand peut-on considérer que le vin, c'est un petit peu l'hygiénisme, les précautions de santé, les lois de restriction
Oui, c'est très difficile à dater parce qu'il y a plusieurs époques, il y a plusieurs moments qu'on peut dater pour la montée en charge, il y a plusieurs moments qu'on peut dater pour la décroissance. Mais ce qui est important dans cette approche du monde du vin sous l'angle culturel, c'est que ça fournit des histoires, comme on disait tout à l'heure, mais ça fournit aussi des moyens de compréhension. pas seulement du monde du vin, mais de la civilisation française. Parce que justement, il y a un tel lien qui est fait entre, qui s'est fait pendant tous ces siècles entre la vie de la France et la vie du vin, oui, de la viticulture et du vin, que expliquer le vin, c'est expliquer la France.
Et d'ailleurs, durant la guerre 14-18, le vin a permis aussi de tenir le moral des troupes. C'était indispensable de fournir du vin aux poilus, quoi.
Voilà,
au
là,
point même
été...
que les états-majors disaient « prenez soin des tonneaux ».
Oui,
parce
tout
que
à
c'était
fait.
Précieux pour le transport du vin, pour l'amener sur,
voilà,
sur le
front. Il y a eu effectivement une petite action de propagande qui a été menée par le général chargé de l'intendance à l'époque, qui du coup, cette action ayant bien réussi, a été nommé maréchal. Et il y avait des affiches qui ont été distribuées qui disaient « le vin, il y en aura toujours. Par contre, les barriques, faites-y attention ». Parce que ça nous sert à transporter. Donc, soyez économes, soyez prudents, soyez protégez vos barriques, parce que là, c'est plus difficile. Les barriques, il faut du temps pour les faire, il faut abattre des arbres, etc., etc. Et effectivement, cette période de la guerre de 14, bon, ben, pour une grande partie, pour le pire, ça a été une période de consommation, d'expansion. C'est là que le vignoble du Languedoc s'est développé, puisqu'ils ont offert, dès le début de la guerre, ils ont offert du vin pour ceux qui montaient au front. Et après, ils l'ont vendu. Hein, ils ne l'ont plus offert, ils l'ont vendu. Et les rations de vin ont progressé tout au long de la guerre pour soutenir les troupes. Mais effectivement, ça montre bien que cette époque-là, c'était vraiment un lien. Le vin était tramé avec la vie de la France. Quand les poilus sont partis en 14, août 14, ils ont dit on sera de retour pour les vendanges.
Oui. Non, il n'en fut rien en fait.
Oui.
Nous parlions précédemment du tonneau de vin utilisé au Moyen-Âge dans certaines circonstances comme monnaie d'échange. Par exemple, pour André Derieux, vous nous confiez le record mondial actuel du prix d'une bouteille. Alors vous mentionnez une bouteille de Romane Conti 1945 qui a été acquise aux États-Unis pour la somme de $558,000. Est-ce que ce n'est pas un peu choquant le prix de ces flacons, quand bien même ils sont beaux et anciens? Quel est votre regard sur le prix de ces bouteilles exceptionnelles?
Oui, mais on est dans les différentes facettes du monde du vin. On a le vin qui va nous servir tout à l'heure, je l'espère, après l'émission, à boire un verre de manière conviviale. On a le vin qui, le week-end prochain, en famille, va nous servir à célébrer un moment familial plus fort. On a le vin qui est celui du collectionneur. Et effectivement, il y a un moment, on bascule dans des vins qui sont des vins de...
Des vins placements.
Des vins effectivement de prestige, et ça fait partie de la vie du vin. De la même façon qu'en matière artistique, eh bien, on peut avoir un poster dans notre chambre, on peut avoir un tableau, on peut avoir... et puis on a des œuvres d'art qui n'ont plus de rapport avec la réalité. Mais on est sur... Le vin a des facettes et le vin a des marchés complètement différents.
Alors je parlais là de cette bouteille de Romane Conti 1945, et en vous lisant André Derieux, là aussi c'est passionnant, le plus vieux vin du monde, il se trouve en France, en tonneau, à la cave historique des Hospices de Strasbourg. C'est un vin qui daterait de 1472, comme diraient nos voisins et amis helvètes, 1472. C'est exceptionnel.
C'est un moment. Alors là, ça fait partie effectivement des héritages des Hospices qui ont eux-mêmes hérité de dons et de cadeaux variés. Et voilà, la cave de Strasbourg a gardé trace de ce... Alors, il est houillé régulièrement, donc je ne sais pas vraiment la proportion qui doit rester. De houillé, ça veut dire qu'on complète, parce qu'il y a une évaporation qui se fait dans ces fûts, dans ces vaisseaux. Et on ne sait pas vraiment quelle est la proportion de 20 1472 qui reste. Mais enfin, voilà, le monument et l'histoire et le storytelling est là.
Alors, on a parlé et on a bien compris que cet essai s'adresse à différents publics, mais que c'est aussi et surtout une volonté de rappeler que le vin est un produit culturelle chargée d'une histoire, d'un passé. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et alors justement, sur l'approche du vin, l'approche, j'allais dire, sensorielle, vous citez Henri Jaillet, vigneron bourguignon, qui disait, déclarait apparemment, le vin est fait pour être bu, pas pour être reniflé. Alors André, pour ne pas être ridicule en société, comment doit-on se comporter quand on nous sert un bon Bordeaux ou un bon Bourgogne dans un vin ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà ?
Ah, alors ça, ce qu'il ne faut pas faire,
qu'est-ce
qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que la dégustation, aujourd'hui, tout le monde s'entend sur le fait qu'effectivement, on a d'abord une partie très rapide qui consiste à regarder le verre et de voir sa brillance, de voir... Cette partie-là, elle était très importante à une époque où les techniques œnologiques n'étaient pas forcément maîtrisées par tout le monde et on n'aimait pas les vins troubles, on n'aimait pas les vins qui avaient des couleurs un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est une partie un petit peu formelle de regarder la couleur du vin. Ne serait-ce, on la regarde par plaisir pour voir quelle est la couleur, mais c'est pas un indicateur de, ça peut pas être un indicateur de problème puisque en principe il y a pas de problème. Ensuite, il y a le nez. Et le nez, ben, il y a le premier nez, on met son nez dans le verre qui est tranquille. Ensuite, on agite de manière circulaire son verre et on respire et on a là le deuxième nez. Et cette partie du nez, aujourd'hui, beaucoup disent qu'elle est devenue trop importante.
Alors, il faut
qu'elle
est
devenue trop
de
importante, pas depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, qu'on attache trop d'importance aux arômes de fruits, aux arômes des arômes primaires, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais on est trop axé sur le nez. Et ensuite, bah, une fois que le vin est, comme disait Henri Jaillet, une fois qu'on l'a reniflé, bah, il faut le boire. Et aujourd'hui, on a une école, notamment bourguignonne, avec Jacques Irigaud et la dégustation géosensorielle, et bien d'autres qui disent finalement l'important c'est l'impression que fait le vin en bouche, quand on l'a en bouche, quand on le tâte en bouche, hein, vous savez l'expression le tâte-vin, ben, on tâte le vin en bouche, on a un toucher de bouche, et là on va pouvoir apprécier les tanins, on va pouvoir apprécier le velours, on va pouvoir apprécier la soie, on va pouvoir toucher le vin. Et aujourd'hui on commence à revenir sur cette impression de bouche. Et historiquement, on s'aperçoit que finalement, si on lit Balzac, on parlait de Balzac tout à l'heure, tous les dégustateurs, les vignerons, tous ceux qui boivent du vin dans Balzac ne font finalement de commentaires que sur la bouche. On parle de râpe, ce sont des impressions tactiles, ce sont des impressions qui aujourd'hui... C'est là qu'on commence à se dire, c'est là finalement, c'est sur la longueur de bouche et le toucher de bouche et les tanins. On a un livre formidable qui vient de paraître sous la plume de Marc-André Selosse sur les tanins qui joue ce rôle-là.
À l'instant, c'était André Derieux qui signe aux éditions Ellipse un essai intitulé « 50 jours pour comprendre autrement le vin ». C'est un entretien qui a été enregistré lors de la 13e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot et diffusé courant octobre dans Wagon Livre sur Radion. André Derieux qui a fait paraître en novembre 2020 un autre essai, toujours aux éditions Ellipse, intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin ». 12 mois avec Bacchus. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez dès à présent la retrouver sur le site d'archives de votre émission littéraire via internet, bien évidemment www.yannickpetit.fr. Vous y retrouvez également tous les titres et les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion, premier numéro de cette nouvelle année 2021. Pause musicale avec Julien Deré et puis viendra le moment pour nous de nous saluer et de conclure.
Non, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous,
la mer, voir si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est la fin de ce premier numéro de Wagon Livre de la nouvelle année 2021. Premier numéro au cours duquel vous avez pu réentendre des extraits d'entretiens qui vous avaient été proposés courant 2020 à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Je rappelle que vous avez pu réentendre Jacqueline Kellen pour son essai « Le jardin des vertus » paru aux éditions Salvator en 2019 et qui a obtenu le prix de la liberté intérieure 2020. Vous avez également pu entendre Betty Yorillo, psychologue clinicienne et thérapeute de couple, qui nous présentait certains aspects de son premier roman intitulé « Sous les mains de Shiva ». Premier roman disponible sur tous les sites en ligne et bien évidemment sur le site de LibriNova, son éditeur. Vous pouvez aussi sans difficulté le commander en librairie. Et puis je rappellerai le titre de l'essai de André Derrieux, 50 jours pour comprendre autrement le vin, aux éditions Ellipse. André Derrieux qui a fait paraître courant novembre dernier un autre essai, toujours aux éditions Ellipse, intitulé « Le calendrier perpétuel de la vigne et du vin ». 12 mois avec Bacchus. Merci d'avoir été en notre compagnie en cette fin de matinée sur Radion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très belle année 2021. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 9 janvier, toujours à 11h sur Radion. Vous retrouvez les références des ouvrages dont il a été question sur le site d'archives de l'émission via internet sur le www.yannickpetit.fr. Merci encore de votre fidélité et de votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.